Bonjour à tous.
Qu'est-ce que t'as, bon sang? Quand vas-tu cesser de te comporter comme un gosse?
Oh, je suis un gosse.
Eh ben, grandis.
Alors, il y a une règle que je veux que vous observiez pendant que vous êtes dans ma maison. Ne grandissez pas. Arrêtez. Arrêtez dès cet instant.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins où toute cette semaine, c'est avec Steven Spielberg que nous philosophons. Avec lui, c'est-à-dire sans en faire un philosophe qu'il n'est pas et sans lui dénier non plus toute profondeur. Avec lui, c'est-à-dire avec ses films, ses images, cette manière de poser autrement les questions que l'on a rencontrées tant de fois dans des livres. Après l'aventure hier et avant l'histoire et les monstres demain et jeudi, retour donc aujourd'hui vers l'enfance. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins reste un éternel enfant. Colomba Grossi, Marianne Chassor, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marie Aubert, sans oublier bien sûr Adèle Vendrette, avec à la lecture des textes Vincent Schmitt, à la réalisation Mydia Portis-Guérin et Nicolas Berger, et à la prise de son aujourd'hui Élise Le. La psychologie de l'individu nous apprend d'où vient le besoin de la masse. C'est la nostalgie du père, qui habite en chacun depuis son enfance, de ce même père que le héros de la légende s'enorgueillit d'avoir dépassé. Et dès lors, nous pouvons entrevoir que tous les traits dont nous parlons le grand homme sont des traits paternels. La résolution de la pensée, la force de la volonté, l'énergie des actions appartiennent à l'image paternelle. On doit l'admirer, on a le droit de lui faire confiance, mais on ne peut s'empêcher de le craindre aussi. Nous aurions dû nous laisser guider par le mot lui-même. Qui d'autre que le père, dans l'enfance, peut avoir été le grand homme ? Loin d'être le grand homme de Freud, le père dans les films de Spielberg est plutôt ce petit homme dépassé par l'enfance de ses enfants, dépassé par sa propre enfance, dépassé sûrement par son propre père, ce grand homme resté lui aussi petit homme et ainsi de suite. Et tant mieux car que reste-t-il des croyances rêvées, fictives, imaginaires de l'enfance dès lors que l'on a la conviction d'être devenu un grand ? La croyance plutôt que la conviction, les errements de l'imagination plutôt que la certitude de la connaissance, les balbutiements de l'enfance plutôt que l'arbitraire de l'âge adulte, tel serait le credo de Spielberg. Mais quand on est déjà grand, comment devenir un enfant ? Et surtout, comment devenir un enfant sans jamais régresser et toujours en grandissant ? Et bien pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le psychanalyste Jean-Jacques Moscovitz qui a écrit une lettre à Spielberg, à celui dont le nom signifie littéralement « montagne de jouets », une lettre dans laquelle il lui dit avoir toujours rêvé le cinéma ainsi, parole d'enfant. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Donne-moi mon livre, s'il te plaît. L'heure est venue de te parler, enfin.
De me parler de quoi ?
De quoi te souviens-tu aussi loin que remonte ta mémoire, Peter ?
Je me souviens du foyer de Great Ormond Street. Tu t'occupais d'orphelins, tu m'as appris à lire. C'est toi qui m'as fait adopter par mes parents américains, Hank et Jan Bunning.
Mais là, tu avais 12 ans, presque 13. Je veux dire, avant cette époque.
Il n'y a rien avant cette époque.
Essaie, Peter, rappelle-toi. J'étais une vieille dame lorsque je t'ai enveloppée dans une couverture. Une grand-mère. Avec ma petite fille de 13 ans qui était en train de dormir dans le lit, Moira. Et lorsque tu l'as vue... C'est là que tu as décidé de ne pas retourner au pays imaginaire.
Où ça ?
Au pays imaginaire.
Moira ! Grand-mère, je vais chercher Moira.
Sais-tu que j'ai plusieurs fois essayé de te
Peut-être
le dire
qu'elle a fait son
et que je savais que tu avais oublié.
Écoute, je ne suis pas prêt à entendre
ça. Je dois parler maintenant, Peter.
Quoi ?
Ce que disent les contes est la vérité. Je te le jure. Je le jure sur ce que j'ai de plus cher. Et il est revenu pour assouvir sa vengeance. Le combat n'est pas terminé pour le capitaine Crochet. Il veut te faire revenir. Il sait que tu iras chercher Maggie et Jack au bout du monde et au-delà. Et pour l'amour du ciel, il faut que tu trouves un moyen. Toi seul peux sauver tes enfants. Il faut que tu remontes dans ton passé. Il faut te forcer à retrouver la mémoire.
La mémoire de quoi ?
Peter, tu ne sais donc pas qui tu es.
Jean-Jacques Moscovitz, quelle meilleure manière de retourner dans le monde de l'enfance que nous propose Spielberg que d'entendre la voix de Wendy. Wendy âgée, c'est dans Hook, le film qui date de 1991. Wendy qui demande à Peter Banning, un homme peu préoccupé de ses enfants, plutôt obsédé par son travail, de retrouver la mémoire, en fait, de retrouver qui il est en retrouvant son enfance. Est-ce que chez Spielberg, l'enfance est toujours ce lieu perdu qu'il s'agit de reconquérir ?
C'est presque vrai, mais c'est bien pour ça qu'il fait des films, c'est pour ça que c'est un cinéaste, un créateur remarquable de l'enfance. Il parle l'enfant, comme on pourrait le dire, d'une langue. Comme on pourrait dire, il parle l'anglais, il parle l'enfant. De même, il parle le père. C'est à peu près cela, la substance de ces films, de ces trois films sur l'enfance, mais il y en a beaucoup d'autres, Hook, Intelligence Artificielle et E.T. La présence même de l'enfance dans ces films, au masculin, c'est quand même vrai que la rencontre qu'il fait d'un fils qui se débat avec ses angoisses pour grandir, pour devenir grand, pour devenir un homme, c'est surtout un garçon. Les femmes sont plutôt dans l'arrière-plan, dans le second plan. Elles sont là, la preuve, dans l'extrait que vous venez de faire.
Il y a une femme, Wendy,
qui dit vraiment ce qu'il faut dire à un homme adulte, qui va donc revenir en arrière, comme qui ? Comme Peter Pan. C'est Peter Pan à l'envers, Hook. C'est Peter Pan à l'envers, c'est un monsieur qui ne veut pas redevenir petit, et qui va le redevenir par la force de l'image, par l'intensité que met Spielberg dans son désir de créer ce film-là. Hook, la revanche du capitaine Crochet, qui réclame son retour pour régler des comptes, avec une figure paternelle imaginaire. Justement, cet oubli de la mémoire dont parle Lending, c'est un oubli de la question père, qui est tellement présente tout le temps, chez Spielberg en premier, dans sa vie probablement. Il parle très peu de son parcours, on connaît très peu de choses sur lui, sauf ce qu'il veut bien dire, notamment la problématique de son père parti, de sa mère qui a donc aussi quitté le foyer avec le meilleur ami du père, oncle Bernie. Qui n'est pas un oncle, mais qui est le meilleur ami, elle est partie.
On en sait quand même déjà pas mal, du coup.
Du coup, on en sait pas mal, et il l'a jamais caché, et il avait trois sœurs qu'il sadisait gentiment pour leur montrer des choses monstrueuses, comme les enfants peuvent faire, et faire peur à ses sœurs. Bon. C'est l'enjeu d'emblée de Spielberg, de savoir, mais c'est quoi la peur d'un enfant ? C'est quoi la peur d'un garçon ? C'est quoi la peur de grandir ? Hein ? Et pourquoi pas rester petit, après tout ? C'est vrai ? Allons-y, essayons.
On fait souvent le reproche, on peut dire, à Spielberg de faire un cinéma donc pour enfants, mais aussi du coup infantilisant. Est-ce que c'est un reproche qui est si légitime que ça ?
Il n'est pas infantilisant du tout, à mon avis. Au contraire, il nous met face à quoi ? Face à l'ancien enfant qu'on a en nous, l'ancien enfant toujours présent, toujours actuel. Celui qui ne sait pas faire ça, c'est un pauvre type. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire.
La psychanalyse. Ah, il y a quand même un jugement, vous voulez dire, dans les films de Spielberg, à l'égard des gens qui ont oublié les enfants qu'ils étaient.
Non, il y a peut-être pas un jugement. C'est ma lecture d'aujourd'hui. C'est pourquoi la psychanalyse a cette faveur de pouvoir dire à quelqu'un n'oublie pas ton enfance, car c'est de là que vient tout ton barda de désir, aussi compliqué qu'il soit. Et c'est tout à fait intéressant de voir que Spielberg, c'est un formidable bonhomme en analyse, quelque part. Mais bien sûr, il le dit en image. Hein. Il dit sa phobie, parce que s'il y a une structure qu'on pourrait lui appliquer de façon un petit peu abusive, c'est la phobie. Que ce soit Hook, que ce soit le crochet, la castration, le manque radical, la douleur, ou que ce soit Jurassic Park. qui est tout à fait intéressant du côté des monstres. Mais justement, l'oubli des monstres, Spielberg nous le rappelle dans Jurassic Park, qui est un film, à mon sens, tout à fait aussi fait pour les enfants. Les enfants le regardent volontiers parce qu'ils s'intéressent à ce qui fait peur. Pourquoi ? Pour se former à cette peur de garçon ou de fille. Hein. Tout à fait.
La figure de Peter Banning dans Hook est tout à fait intéressante parce qu'elle condense à la fois la figure de l'enfant abandonné, mais aussi du père qui abandonne. Et il y a cet enjeu pour lui, effectivement, de retourner dans ce pays imaginaire, de vaincre définitivement le capitaine Crochet, alors qu'il est peut-être la figure du père avec laquelle il se débat. Et il y a en fait ce mouvement paradoxal qui est d'embrasser son enfance pour devenir adulte, en fait. Continuer à assumer d'être un enfant tout en étant adulte. Mais est-ce que ce passage, en fait, de ce que vous appelez dans votre lettre à Steven Spielberg, ce passage du monde intime au monde politique,
c'est ça.
Est-ce que c'est un passage? Est-ce que c'est une cohabitation? Est-ce que c'est un paradoxe impossible à tenir? Comment Spielberg, lui, l'exploite?
Je crois que Peter Banning, c'est plutôt un adolescent. C'est une problématique d'adolescent. C'est-à-dire, le passage à l'âge adulte de l'enfant passe par l'adolescence et cette souffrance et cette rigidité aussi qui s'installe. C'est ce besoin de certitude qu'a l'adolescent, dont a besoin l'adolescent, qu'il lui faut. Et voilà. Et en même temps, son travail qu'il a investi, il réussit brillamment. Et puis, cette image du téléphone qui est jetée par son épouse dans la neige. Et finalement, le film Hook, c'est quoi? C'est une nuit passée dehors pour Peter Banning, Monsieur Banning, qui est banni. Hein, en anglais, banning, c'est être viré, quoi. Qui va donc. Et en la fin du film, le téléphone sonne à nouveau. Et c'est l'adulte qui a gagné son retour dans ses rêves. Voilà. C'est au fond, le film de Spielberg, comme beaucoup de films du grand cinéma, sont nos grands rêves qui nous apprennent, qui nous enseignent qui nous sommes. Avec justement, il faut une certaine beauté des images, il faut une beauté des personnages, il faut des visages. Spielberg le dit lui-même, le cinéma, c'est les visages, c'est les acteurs. Il n'oublie pas ça, mais son scénario, sa qualité de scénariste, qu'il entretient sûrement avec des tas de collègues, et c'est des équipes de scénaristes, parce qu'il y a aucun défaut dans ces montages de films et dans ces scénarios, qui nous font parcourir avec une joie formidable des choses qu'on n'ose même plus penser parfois. Je crois qu'il nous oblige à penser notre réel en tant qu'enfant, accédant au social et au politique, avec la difficulté qu'il y a dans ce politique qui a subi tellement de terribles choses, notamment pour Spielberg, il est, avec La Liste de Schindler et d'autres films, il nous montre L'Empire du Soleil, enfin, combien la violence du siècle dernier oblige chacun d'entre nous et le petit garçon qui grandit à se coltiner à cette difficulté-là. Et par exemple, un film comme The Terminal, moi je le trouve tout à fait exemplaire pour ça. Ce n'est pas un très grand film de Spielberg, mais il est tout à fait intéressant. Parce que du côté de la singularité, du sujet et du moi, c'est très soft, c'est très doux. Et du côté du collectif, c'est très violent. Son pays est détruit, il peut pas y retourner, il y a quelque chose de l'éjection du denied, il est denied sur le passeport américain, il peut aller nulle part. Hook, le pays de nulle part. Donc c'est les enjeux Spielberg de savoir ce que c'est que le psychisme passe par cette sorte de travail sur le rapport d'un garçon à son père, c'est vrai, à la défaillance du père. Au fond, c'est ça qui est traumatique chez Spielberg, et là, les psychanalystes en est très concernés par ça. Le trauma que subit le garçon, c'est cette défaillance du père que le garçon doit réparer, tenir par tous les bouts. E.T. y compris, on verra bien. Et c'est là où, y compris bien sûr Intelligence Artificielle, où il faut qu'il répare ce père pour, comme je le dis dans mon livre « Lettre d'un psychanalyste à Spielberg », dépervertir le futur.
Ça veut dire quoi, dépervertir le futur ?
Alors, dépervertir le futur, j'ai failli l'appeler « Rêver de réparer le futur ». Mon livre qui a suivi, c'est « Rêver de réparer l'histoire ». Réparer le futur, c'est-à-dire que les enfants qui arrivent dans le monde n'auront pas les difficultés, on aura assez travaillé, élaboré par plein de disciplines, psychanalyse, cinéma, littérature, politique, élaboré ce monde pour que ça soit moins violent, espérons-le. La preuve n'est pas faite. Mais c'est vrai qu'il y a à dépervertir le futur. Alors en anglais, ça a été très difficile de le traduire. Discorrupt, ça veut décorrompre. La perversion, quoi, au fond, dépervertir, c'est comme si la perversion allait être ce qui va nous gouverner. Ça a probablement été le cas tout le temps, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il nous faut calculer la perversion qui arrive. et essayer de la déjouer, de la diminuer.
Mais en même temps, les enfants sont quand même les êtres pervers par excellence chez Freud. C'est quand même les pervers polymorphes. Ah, voilà. Et d'ailleurs, la figure des enfants...
Oui, mais jusqu'à 6-7 ans. Ils n'ont pas d'actes pervers. Il y en a, mais
non,
c'est rare.
Mais d'ailleurs, en fait, si on en reste à une lecture très banale du terme pervers, les enfants chez Spielberg ne sont pas si angéliques que ça.
Pas du tout. Ils sont pas pour autant pervers, ils souffrent. Mais non, ce que Freud appelle par pervers polymorphe, c'est que il obéit à toutes ses pulsions en même temps, sans qu'il y ait une sorte de gérance, de gestion qui gouverne l'ensemble, qui va être la dimension phallique, la dimension du manque phallique, la dimension du lien à l'autre, par le biais du sexuel notamment et de l'amour. Mais l'enfant est pervers pour lui-même parce qu'il jouit de toutes ses pulsions en même temps. Hein? Ça n'est pas un problème pour lui. Mais c'est bien évidemment l'éducation, alors là l'éducation est centrale dans tout ça, qui va lui montrer qu'on peut pas jouir de tout. Alors, bon, c'est une expression formidable de Freud, mais ça ne qualifie pas du tout la pathologie ou la psychologie de l'enfant. Ça n'est pas du tout là le point fondamental, disons. Et d'ailleurs, Spielberg n'en joue pas tellement. Il n'en joue pas tellement.
Tell me, what is love?
Love is first widening my eyes a little bit and quickening my breathing a little and warming my skin and touching the...
And so on, exactly so. Thank you, Sheila. I wasn't referring to sensuality simulators. The word that I used was love.
Je propose que nous fabriquions un robot enfant qui puisse aimer, un robot enfant qui pourra aimer sincèrement le parent ou les parents par lesquels il aura été empreint d'un amour qui ne finira jamais.
Un méca substitut d'enfant.
Mais un méca doté d'un esprit, avec un feedback neuronal. Vous voyez, ce que je propose, c'est que l'amour va devenir la clé par laquelle ils acquerront une sorte de subconscient, ce qu'ils n'auraient jamais eu. Un monde intérieur de métaphores, d'intuitions, de raisonnements automotivés, de rêves.
Un robot qui rêve?
Oui.
Et comment nous allons pouvoir prendre ça?
Vous savez, j'étais en train de penser qu'avec toute cette animosité qui existe contre les mécas à l'heure actuelle, ce n'est plus simplement la question de créer un robot qui puisse aimer. Mais la véritable énigme n'est-elle pas: y aura-t-il des humains qui pourront les aimer?
Le nôtre sera un enfant parfait, comme dans un arrêt sur image, toujours aimant, jamais malade, jamais changeant. Avec tous ces couples sans enfants qui attendent en vain un permis de grossesse, notre petit méca va non seulement ouvrir un marché complètement nouveau, mais va remplir un besoin humain.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si un robot pouvait sincèrement aimer une personne, quelle responsabilité aurait à son tour cette personne envers ce méca? C'est une question morale, n'est-ce pas?
La plus ancienne de toutes. Mais au commencement, Dieu n'a-t-il pas créé Adam pour qu'il l'aime?
Jean-Jacques Moscovitz, on vient d'entendre un extrait du tout début en fait d'Intelligence artificielle, dans lequel on entend donc ce professeur dire qu'il projette de créer un enfant parfait, un enfant méca par mécanique par opposition à orga organique, et donc ce robot serait parfait, il pourrait être aimé de ses parents, il serait capable d'aimer lui aussi, mais finalement cet enfant idéal n'est pas du tout aimé. Précisément parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Jacques Moscovitz, il n'est pas un enfant qui jouit de tout. Il est un enfant lisse, sage, au point d'en être monstrueux.
C'est monstrueux. C'est monstrueux. Son visage est magnifique. On a envie de l'aimer, de l'embrasser. Il est dans le film, bien sûr, c'est un personnage formidable, tenu par un acteur formidable. Ça évoque beaucoup de choses. Moi, je pense que c'était éminemment politique. C'est une véritable, prévision prédictive de Kubrick, puisque le scénario est de Kubrick et le film est de Spielberg. Et c'est tout à fait prodigieux de voir que les metteurs en scène géniaux savent penser le futur, dépervertir le futur, j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le méca, c'est une machine, et qu'il va y avoir un conflit entre machine et chair, la chair.
Il y a d'ailleurs des foires à la chair où les robots sont pulvérisés sur la place publique.
Voilà, c'est là le calcul métaphorique de Spielberg ou de Kubrick, disons, c'est de faire en sorte que ces robots qu'on n'aime plus, qui servent plus à rien, vont être jetés dans une espèce de, je sais pas quoi, de hall, ça s'appelle hall d'ailleurs, H-A-L, où ils vont être jetés, et ça s'appelle la foire à la chair, parce que le petit gamin David, le robot, il est programmé pour aimer sa mère, toute sa mère, pour toujours. Mais en même temps, il a cette faculté donc ni manger ni boire ni pipi ni caca, etc. Il y a la fameuse scène des épinards
qui est géniale justement parce que vous disiez voilà. qu'il a un très beau visage et donc pendant cette scène des épinards, il est provoqué par un autre enfant qui est en fait l'enfant biologique du couple voilà. qu'il a adopté, on va dire, et donc l'enfant, le véritable enfant, le provoque et on retrouve aussi cette absence d'angélisme des enfants chez Spielberg. Il le provoque pour manger des épinards et donc le David, le robot, mange des épinards et son visage se déforme. Et il y a d'ailleurs tout un travail sur la déformation du visage de David tout au long du film qui est assez fou, à travers des miroirs, à travers aussi des vitres à relief. Et donc là, ce visage déformé est tout à fait justement monstrueux pour le coup.
Oui, et puis les chirurgiens ou je sais pas quoi, les ingénieurs vont le réparer sans anesthésie, bien évidemment, en lui parlant, et vont lui enlever les épinards de ses rouages, et il va reprendre son chemin. Mais le problème de David le robot, c'est qu'il n'a aucune filiation. C'est ça l'intérêt de la chose. Et quand l'ingénieur du début dit on va créer l'amour, il aura des intuitions, il aura des parcours neuroniques, il n'est pas dans l'apparentement, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le conflit avec qui que ce soit. Il ne peut pas rentrer en conflit. Qui n'entre pas en conflit, c'est le psychanalyste qui parle, ne peut pas se structurer. Donc il va rester toute sa vie tel qu'il est, c'est monstrueux. Il va d'ailleurs ne pas mourir. Hein. Mais la question n'est pas tellement là. La question c'est que ça vient nous dire quelque chose de l'ordre de notre souhait que des enfants soient parfaits. Ça c'est un modèle actuel, l'enfant parfait ou l'enfant rejeté. C'est très bien éduqué ou alors on le jette. Il sert à rien. On va le jeter à la foire, à la chair. Plus exactement, c'est sa mère. Je trouve que c'est un acte très intéressant qui est fait, qui contredit l'ingénieur du début. Parce que la mère ne le supporte plus, parce que pour la bonne raison, c'est que le fils réel, en chair, lui, et en os, et en souffrance, et en conflit, est revenu à lui. Il était en coma, il est sauvé. Et finalement, plus besoin d'avoir un méca. Elle va le jeter, mais elle le jette en pleurant.
Elle l'abandonne dans une forêt quand même.
Dans une forêt qui est pas loin. Bon,
c'est une scène très belle d'ailleurs parce que ça se passe dans la forêt et on voit donc cet enfant robot au milieu de la nature qui est abandonné par sa mère. Donc il y a véritablement aussi un conflit entre la nature et le mécanique.
Comme l'ogre, comme le petit poussé. Hein. Et alors justement, c'est Pinocchio à l'envers. Pinocchio va devenir...
Alors on est passé de Peter Pan à l'envers avec Hook à Pinocchio voilà, à l'envers.
À l'envers, c'est absolument ça. Hein. C'est l'astuce de le génie cinématographique de Spielberg, c'est-à-dire Pinocchio devient un vivant en passant dans un ventre maternel, la baleine, formidable histoire, avec son père en plus, Giuseppe. Mais lui, il peut pas devenir, il va pas devenir la chair. Il veut devenir la chair. C'est pour ça que ça s'appelle la foire à la chair. C'est-à-dire, tu peux toujours courir. Il y aura pas de chair là-dedans, hein. Il y a des pièces qu'on peut changer du méca en question. Lui, coup de chance, il est sauvé par une petite fille dans l'histoire. Il va à Red City grâce à deux hommes qui se font caresser volontiers par Gigolo Joe, le robot sexuel. On va le voir peut-être. Mais c'est tout à fait prodigieux de voir comment l'absence de filiation, l'absence d'affiliation, l'absence de transmission généalogique, de transmission, je dis même pas génétique, c'est pas la question, de transmission psychique de ce que c'est qu'aimer quelqu'un, qui en retour va aimer, ça se fait pas comme ça. Ça ne se construit pas dans un méca.
Il y a d'ailleurs effectivement ce moment aussi où il s'agit de suivre un protocole pour que l'enfant méca, pour que David, le robot, reconnaisse Monica comme sa mère. Et donc elle doit lui mettre la main sur la nuque et prononcer un ensemble de mots qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Donc par exemple tulipe, moi j'ai retenu tulipe. Et à la fin, instantanément, comme si elle avait formulé une formule magique, il l'appelait maman. Et effectivement, en fait, on voit bien que pour elle, cela n'opère pas. Le charme de l'enfance n'opère pas sur elle.
Non, elle est totalement surprise. Elle ne comprend rien. Et il y a de quoi. Hein. Mais je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir que cette mère abandonne cet enfant parce qu'elle redevient femme à ce moment-là, je pense. Qu'elle peut redevenir femme, justement, ne pas se laisser aller à la maternité qui n'en est pas une. Ni grossesse, ni rien. Bon, ça peut arriver d'adopter des enfants.
En même temps, elle est dans un trouble par rapport à son enfant biologique.
Oui, mais qui se calme dans le film puisqu'il est guéri. Il y a la fameuse scène de la piscine. C'est ça qui décide de tout. C'est-à-dire que il y a l'anniversaire de Thomas, qui est donc l'enfant en chair.
Martine,
qui justement se retrouve chahuté par ses copains. Et il plonge dans la piscine. Et pour le sauver, David plonge dans la piscine, mais le maintient au fond de l'eau. pendant un bon moment au point qu'il va se noyer.
En fait, précisément.
Et c'est ça qui décide la mère, elle dit, mais ça va plus. Là, terminé, je marche pas. La machine est plus forte que nous, donc il faut s'en débarrasser. Alors, moi, ça m'évoque le statut de l'enfant dans notre société, c'est-à-dire l'enfant parfait ou l'enfant rejeté, et l'enfant autiste. David, le robot, ça fait penser à l'autiste, un enfant autiste. C'est-à-dire celui qui ne se situe pas dans une filiation, celui qui ne se situe pas dans des mots, sinon ceux qui sont inscrits comme ça, qu'on lui apprendrait de force.
Hein. Qui n'y met pas de signification, qui n'y met pas de sens.
Voilà. Et en même temps, il a cette formidable... on lui a installé un logiciel, qui ne peut pas être uninstall. On peut pas le désinstaller. Et du coup, il va chercher quelque chose à travers le film. Il va chercher. C'est 2000 ans après, tout le monde est mort. Lui, il a survécu. C'est 2000 ans du christianisme. Hein. Ça fait penser vraiment à quelque chose de l'enfant divin, qui est soi-disant survenu maintenant de façon méca. Mais il va retrouver dans un ventre, on pourrait dire, mais de l'eau froide, glaciale. Et bon, il y a toute la suite du film qui montre ça, où au fond, il est seul. Mais la question du père, la machine méca, les fabricants du méca ont oublié. Nous, on dit forclos. Ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient penser installer la fonction paternelle dans le robot. Ils ont installé la mère, pas le père. Du coup, la transmission ne peut pas avoir lieu et tout ce qui peut se produire ne sera que factice. Et c'est la problématique du père qui, donc le type s'appelle Hobby, le fabricant de robots, c'est monsieur Hobby, c'est distraction, qui justement n'a pas compris. Et en même temps, la révolte de David, qui quand même jaillit.
Qui veut devenir réel, qui veut retrouver
cher,
sa mère, qui l'a abandonné.
Qui veut
devenir cher.
Un vrai petit garçon singulier avec son corps. Bien sûr, il ne deviendra pas. Pinocchio, là, ne marche pas, le fantasme Pinocchio. Le Hobby lui dit, parce qu'ils se rencontrent, on avait prévu ta révolte. Ça, on l'avait prévu, mais par contre, ils n'ont pas prévu que cette révolte qui a lieu se soutient de quelque chose de la fonction paternelle, d'un trou dans la machine qui fonctionne comme fonctionne la fonction père dans notre psychisme. Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est le génie de Spielberg.
Il est 10h29, vous êtes sur France Culture, c'est une semaine spéciale cinéma à l'occasion du 69e Festival de Cannes qui débutera demain. Et vous êtes à l'écoute des nouveaux chemins de la connaissance où nous philosophons pour l'occasion avec Steven Spielberg. Et pour ce deuxième moment, c'est avec le psychanalyste Jean-Jacques Moscovitz, membre fondateur de l'association Psychanalyse Actuelle et membre d'Espace Analytique, auteur d'une lettre d'un psychanalyste à Steven Spielberg disponible aux éditions Papier Sensible, c'est une édition numérique, que j'ai le plaisir d'évoquer la question de l'enfance à partir d'E.T., Hook et intelligence artificielle.
L'homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, sait quelle femme il a eue, dans quelles aventures risibles il a trempé. Sa richesse ou sa pauvreté ne lui est de rien. Il reste à cet égard l'enfant qui vient de naître. Et quant à l'approbation de sa conscience morale, j'admets qu'il s'en passe aisément. S'il garde quelque lucidité, il ne peut que se retourner alors vers son enfance, qui, pour massacrer qu'elle ait été par le soin des dresseurs, ne lui en semble pas moins pleine de charme. Là, l'absence de toute rigueur connue lui laisse la perspective de plusieurs vies menées à la fois. Il s'enracine dans cette illusion. Il ne veut plus connaître que la facilité momentanée, extrême, de toute chose. Chaque matin, des enfants partent sans inquiétude. Tout est prêt. Les pires conditions matérielles sont excellentes. mais il est vrai qu'on ne saurait aller si loin. Il ne s'agit pas seulement de la distance. Les menaces s'accumulent. On cède. On abandonne une part du terrain à conquérir. Cette imagination qui n'admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer que selon les lois d'une utilité arbitraire. Elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et, aux environs de la 20e année, préfère en général abandonner l'homme à son destin sans lumière.
Attends ! Et si la fée bleue n'était pas réelle, David ? Si elle n'était que magie, le surnaturel est la trame occulte qui unit l'univers. Seul l'orga croit en ce qu'on ne peut voir ni mesurer. C'est cette singularité qui sépare nos espèces. Ou alors si la fée bleue n'était en réalité qu'un parasite électronique qui avait une raison de hanter les esprits de l'intelligence artificielle. Ils nous haïssent, tu sais, les humains. Rien ne pourra les arrêter.
Ma maman ne me hait pas! Parce que je suis exceptionnelle et unique! Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un comme moi. Jamais. Maman aime Martin parce qu'il est réel. Et quand je serai réel, maman viendra me faire la lecture et me border dans mon lit et chanter pour moi. Et elle écoutera ce que je dirai. Et elle fera un câlin avec moi. Et elle me dira chaque jour, 100 fois par jour, qu'elle m'aime.
Elle aime ce que tu fais pour elle. Comme mes clientes aiment ce que je fais pour elles. Mais elle ne t'aime pas. David, elle ne peut pas t'aimer. Tu n'es ni en chair, ni en os. Tu n'es ni un chien, ni un chat, ni un canari. Tu as été conçu et fabriqué spécifiquement comme le reste d'entre nous. Et tu es seul maintenant, uniquement, parce qu'ils en ont assez de toi, qu'ils t'ont remplacé par un nouveau modèle, ou qu'ils n'ont pas apprécié quelque chose que tu as dit, ou bien cassé. Ils nous ont fait trop nombreux, trop intelligents et trop rapides. Nous sommes en train d'expier les erreurs qu'ils ont commises, parce que lorsque la fin du monde viendra, il ne restera que nous. C'est pour ça qu'ils nous haïssent. Et c'est pour ça qu'il faut que tu restes ici. Avec moi.
Jean-Jacques Moscovitz, on vient d'entendre un autre extrait d'intelligence artificielle, donc Joe, interprété par Jude Law, qui est un robot d'amour, c'est-à-dire une sorte de substitut à l'amour.
Sexuel.
Sexuel, évidemment, un prostitué, en fait, on peut le dire, donc qui est instrumentalisé, qui est un objet, rappelle à David sa condition de méca. Il n'est là aussi que pour satisfaire des fins des humains, et non pas, il n'est pas une fin en lui. Même. Et pourtant, vous avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques Moscovitz, qu'il manquait aussi le langage, en fait, à David. On l'entend parler, mais il n'y met pas de sens. Et pourtant, David a ceci de particulier qu'il croit en une fiction, qu'il croit en un conte qui est celui de Pinocchio. Et c'est proprement ce qui le, peut-être, qui le rend réel, ce qui le fait tendre vers l'organique, ce qui le fait tendre, même ce qui le fait devenir un enfant.
Oui. Ce film est tout à fait important par rapport à la filmographie de Spielberg et par rapport au cinéma actuel, moderne, de nos jours, parce que c'est politique. Ça montre comment on va se servir des enfants, comment on va se servir de nous, comment il y a un mouvement qui s'appelle le transhumanisme, qui voudrait dans quelques années, à partir de données médicales qui sont fausses d'ailleurs, je sais que des médecins de l'Académie de médecine se révoltent contre ça, ces gens-là se servent, c'est américain, se servent trop du médical, pour que justement on devienne comme des mécas. Numérique, qu'on devient des octets. Et là, il y a un enjeu de, une folie qui va, en quelque sorte, petit à petit, négliger tout ce qui peut en être de l'enjeu de ce que c'est qu'un humain. Ça va, c'est un crime contre l'humanité, contre l'humain, hein. Évidemment. Et ce film montre ce méca David, charmant, formidable. On prend parti pour lui. C'est le héros du film, évidemment.
On peut être aussi agacé ou très effrayé. Il met mal à l'aise.
Il met mal à l'aise, c'est exprès. Mais l'enjeu veut que justement dans cette façon qu'il a de parler, il parle très très bien et il a une vraie demande. C'est ça qui est tout à fait éprouvant pour nous, parce que cette machine a une demande.
Il veut être unique, il ne veut pas être
série. Il veut être avec de la chair, il veut faire comme Pinocchio, il veut qu'un morceau de bois devienne de la chair, et il veut, et d'ailleurs il crie, on pourrait dire, il souffre comme le futur Pinocchio qui va naître de la bûche, quand GPT frappe sur le bois, il entend des cris, il se dit tiens, il y a de la vie qui arrive, bon, c'est le conte, et ce film est fait comme un conte. compte, c'est-à-dire la vérité de l'imaginaire et de la vérité de ce que prend l'imaginaire comme réel pour nous faire entendre. C'est ça l'avantage d'un film de fiction, c'est qu'il y a un réel qui est mis en jeu sans qu'on le sache vraiment, qui nous montre ce qu'on va devenir. Mais la question qui est tout à fait prodigieuse dans ce film, c'est que finalement il parle. Un robot qui parle authentiquement, c'est tout à fait impressionnant. Et la fin du film montre quoi? Des extraterrestres, on ne sait pas trop, ces espèces de virgules, des espèces de virgules, de comas en anglais, qui
sans
sont
visage,
là, sans rien, ni amour, ni sexe, ni conflit, ni rien, mais ils parlent. Et ça, c'est un coup de génie de la part des cinéastes, de nous montrer que, alors que la parole est faite justement d'un en dessous de l'inconscient, il y a de la parole, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité quand même, soi-disant, de jouer le jeu. Et pourtant, ça ne joue pas le jeu.
On a entendu juste avant un extrait interprété par Vincent Schmitt, un extrait du Manifeste du surréalisme oui. d'André Breton qui date de 1924. Il établit cette distinction, André Breton, entre l'imagination sans borne de l'enfant et en revanche l'imagination limitée à laquelle on a mis les lois d'une utilité arbitraire qui est celle de l'adulte. Finalement, en fait, l'imagination que l'on retrouve chez David, donc cet enfant qui est beaucoup plus ambigu, et d'ailleurs en fait je me demande si le statut en fait du robot tel que vous le décrivez, Jean-Jacques Moscovitz, est peut-être beaucoup plus ambigu tel qu'il est donné à voir oui, par oui, Spielberg, oui. C'est-à-dire que David, il n'est pas condamné en tant que tel. Effectivement, c'est le héros, on a de l'empathie pour lui, il met aussi très mal à l'aise. Et Spielberg ne tranche jamais, en fait, cette question de savoir s'il est pour ou pas, s'il critique, s'il est réflexif, s'il est préventif sur le devenir robot de l'humanité. En revanche, il y a quelque chose qui est permanent et qui persiste, c'est cette réduction de l'enfance à l'imagination. En quoi l'imagination est-elle si représentative de l'enfance ?
Elle est représentative comme le rêve l'est. Le texte de surréaliste que vous avez fait lire est tout à fait prodigieux parce que c'est le point de vue français, je dirais, par rapport au point de vue américain de Spielberg, enfin de l'Amérique, du cinéma américain. C'est-à-dire que André Breton a une phrase qui dit que les rêves, c'est ce qui nous donne de nos nouvelles le matin. C'est-à-dire qu'on est retourné dans quelque chose, appelons ça de l'enfance, mais l'équivalent enfant, inconscient, exil de soi, la question de l'origine, la question d'où je viens, où aller, sont des questions qui sont nouées à l'imaginaire, dans l'imaginaire, mais cet imaginaire n'est pas tout seul, il est noué à une possibilité de le comprendre, de le cerner, de le cadrer, de l'accepter et de passer à autre chose, parce que ça nous donne une découpe du réel, comme on dit, mais c'est-à-dire de points qui sont inatteignables comme tels, mais qu'on pressent. Et que le robot, lui, ne peut pas pressentir, d'après le dialogue qu'on vient d'entendre entre Gigolo Joe et David, ne peuvent pas. Ils savent qu'ils sont piégés, ils savent qu'ils ont été fabriqués dans le but de quelque chose, mais ils n'examinent pas leurs pensées, si je puis dire. Ils ne savent pas examiner ce qu'ils pensent. Et ça, c'est le propre de l'humain, c'est-à-dire de pouvoir se tromper.
De pouvoir avoir une réflexivité, mais finalement Joe est tout à fait lucide par rapport à sa condition de méca, c'est-à-dire qu'il rappelle que lui-même quand même se rend compte que David n'est pas un robot comme les autres, qu'il a la capacité quand même de croire et d'imaginer, ce que lui n'a pas.
Alors, est-ce que ce croire, c'est un quelque chose qui est installé dans le méca enfant qui n'est plus dans le méca adulte. Le méca adulte de Gigolo Joe est fabriqué d'emblée adulte, d'emblée sexe. Donc d'emblée, pas la peine qu'il croit ou pas. Par contre, ils viennent commettre un délit, Gigolo Joe. Ils viennent voler, je sais pas quoi, il y a un truc où il est poursuivi par la police. Et donc il sait qu'il va disparaître, il sait qu'il va être pris, et il va donc transmettre, effectivement, quelque chose à David, un peu comme dans une filiation. Il va lui transmettre, lui adulte, à l'enfant, quelque chose, méfie-toi de ça, on va aller là pour essayer de t'en sortir. Et c'est vrai que ça c'est comment dire, ça prend une figure humaine qui est encore plus effrayante, et en même temps, dans le film, le metteur en scène nous fait presque souhaiter que ça soit possible pour que David s'en sorte. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? David sera dans une immense solitude éternelle, à Manhattan, qui a été détruit.
Oui, déjà, il sera donc plongé sous l'eau, gelé, pendant 2000 ans. Et quand il va se réveiller, donc il va tomber sur ces formes
ventre
de...
Un ventre très froid. Ouais.
Donc il va tomber sur ces formes de créatures que vous décriviez, Jean-Jacques Moscovitz, qui sont ces sortes de virgules qui ne sont plus humaines du tout, et qui justement voient en David, et c'est ça qui est intéressant, voient en David un reste de l'humanité.
Voilà, c'est ça.
Alors, il y a un renversement.
C'est ça, il y a un renversement. C'est que David représente la preuve du génie humain qui a disparu. C'est l'humain qui a inventé le robot. Et moi je dis le mot génie un peu trop souvent dans mon. Mais il y a quelque chose. C'est le texte du film qui dit le génie humain. La preuve du génie humain est représentée par David. Donc c'est là où il y a une perfectibilité qui est souhaitée dans le robot, la même qu'on souhaite pour l'enfant aujourd'hui souvent, et qui fait qu'on le rejette. Hein. Pour ça je disais aussi, il y a. Alors c'est pas dans le film lui-même, mais il y a une dimension de l'autisme, de la maladie autistique, de la souffrance de l'autiste, handicap ou pas, qui est là, très présent, c'est-à-dire dans cette immense solitude qui ne peut pas se référer à une filiation quelconque. Et c'est pour ça que je suis assez mécontent d'entendre sur la chaîne parlementaire quelqu'un comme Solène Neuville dire qu'il faut plus permettre aux analystes d'avoir affaire aux autistes. Encore récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est d'une violence politique absolument désadaptée.
E.T. est un film sur le divorce de mes parents. On ne s'en rend pas toujours compte, mais en fait, l'histoire d'un extraterrestre, bon, j'avais eu cette idée avant, mais le divorce de mes parents m'a donné le besoin de combler le vide qu'avait laissé mon père en partant. Et E.T., c'est l'histoire de Elliot, le jeune héros, dont la vie est remplie par cette amie très spéciale, qui est un peu magique, et qui peut finalement faire tout ce que son père ne pouvait pas faire. Et donc il réunit en fait cette famille. Et ça, j'avais jamais pu le faire moi-même.
Elliot, that machine. What does it do?
I really shouldn't tell. He came to me. He came to me.
Elliot, he came to me too.
Ce qui vient d'arriver, je l'attends depuis l'âge de 10 ans. Je ne veux pas qu'il meure. Qu'est-ce que nous pouvons faire que nous n'ayons déjà fait?
Il veut rentrer chez lui. Il essaie de joindre son peuple. Et je ne sais pas où il est. Il doit rentrer dans sa maison.
Elliot, je ne crois pas que ce soit volontairement qu'on l'ait laissé ici. Mais sa présence est un miracle, Elliot. C'est un miracle. Et dis-toi bien que personne n'aurait mieux fait que toi. Je suis heureux que ce soit toi qui l'ai rencontré.
E.T.
Le petit garçon se stabilise. Sa tension artérielle remonte très nettement.
Ça fait des milliers de fois plus de diversité génétique. Il fabrique des protéines qu'on ne connaît pas.
216 ans comparé à nos 64.
Il parle.
E.T. Reste avec moi. Je t'en prie.
Reste
ensemble.
Reste, Elliot. Reste. Reste. Reste.
Sa tension descend de plus en plus, ses QRS sont lents et élargis.
Comment est l'enfant?
Il repasse en rythme sinusal normal.
Il se sépare. L'enfant et la créature se séparent.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
L'enfant revient. Nous perdons E.T.
E.T., réponds-moi, je t'en prie.
Tu vas vite guérir.
Je t'en prie.
Reste calme.
Jean-Jacques Moscovitz, le meilleur pour la fin. E.T., on ne pouvait pas parler de l'enfant chez Spielberg sans parler d'E.T. Et on est à ce moment du film où il y a eu une telle fusion entre cet extraterrestre E.T. et entre le petit Elliot, qui est d'ailleurs E.T. la contraction du prénom Elliot, donc une sorte de double entre les deux, et une telle fusion qui fait que quand l'un est malade, l'autre l'est aussi, et donc il s'agit là de les séparer. Est-ce qu'on peut y voir le signe de la croissance, le fait de grandir, le fait de se séparer de ses parents, et puis comment grandir finalement tout en restant un enfant? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est l'enjeu de Spielberg lui-même avec ses films?
Grandir à condition de pas oublier ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'enfance. C'est-à-dire, c'est ça. Bon, E.T., moi, je veux dire un point d'histoire pour mon bouquin, c'est le livre. C'était dans le conflit entre Shoah de Lanzmann, pour lequel j'étais absolument enthousiasmé, j'ai beaucoup travaillé avec cette question, et la liste de Schindler. Alors, c'est pas la problématique de ce matin, bien que, on m'a demandé ensuite de faire un livre, parce que j'étais assez branché sur les problématiques de l'histoire et de la rupture de l'histoire en Europe, et que je savais que Spielberg l'était aussi. Du coup, je me suis mis à travailler Spielberg, à faire ce livre, très volontiers. On m'avait d'ailleurs, il y a une petite erreur qui s'est faite au départ, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire comme film sur les légendes, comme bouquin sur les films qui représentent les mythes actuels. J'ai cité quelqu'un d'autre, effectivement, ça a été bon, mais en même temps, on m'a envoyé le contrat avec Spielberg. J'ai dit, bon, ben, je pars. J'ai vu les films de Spielberg et je suis tombé sur ces films-là, où l'enfance est tellement prégnante, au point que je me suis dit, bon, Spielberg, pour la question des films pour adultes, ça va pas. C'est ce qu'on dit classiquement, bien que ça soit très discutable aussi. Et du coup, E.T., voilà, je suis donc allé voir des films, et notamment, je suis allé voir E.T. avec mon fils Thomas, qui avait 8 ans, et il y a eu un moment formidable où tous les gamins de la salle de cinéma rigolaient, et les adultes presque pas. Et c'était ce fameux doigt de E.T. qui traversait l'écran, et les enfants savaient que ce doigt, ou savent que ce doigt, c'est bien quelque chose de très important. C'est du savoir qu'ils veulent acquérir et qu'il est défini. Et ça, j'ai trouvé ça absolument prodigieux. Du coup, je me suis mis à travailler sur ce film et les autres de Spielberg pour faire ce livre. Et ça aboutit à ce que je me rende compte que E.T., c'est un enfant mélancolique, au sens banal du terme, c'est-à-dire que son père est parti avec Sally.
Donc Elliot.
J'ai fait le lapsus. Elliot est parti avec Sally et il se retrouve donc sans son père à un moment où il fallait surtout pas. C'était vraiment l'idéal pour qu'il tombe malade, psychiquement, dépression grave. Et c'est ça qui fait qu'il va dans son armoire à nounours, en prendre un probablement, se lover là-dedans, et tout ce qu'on peut dire d'un enfant avec son nounours, et finalement arrive dans l'imaginaire d'une nuit, on pourrait dire aussi, E.T. qui arrive donc comme un espèce de fœtus. Il a la gueule d'un fœtus, il a la gueule d'une voiture, il a des phares, c'est un drôle de truc. C'est un jouet vraiment. Mais en même temps, il a ce côté bout de père comme ça. C'est un bout de père à partir duquel l'enfant, donc Elliot, oui c'est vrai, c'est Elliot et E.T., se jouxte. Alors évidemment, ça va rentrer dans la cité refuse cette histoire, ou alors s'interroge beaucoup sur ce monsieur qui vient d'ailleurs, et qui n'est pas un monsieur, et qui en fin de compte représente quoi? Dans une famille, c'est très difficile pour justement Elliot, son père est parti alors qu'il a l'âge où il doit s'imaginer que son père est en trop. Qu'il doit rester lui avec sa mère, que son père, oedipiennement, doit partir, c'est un intrus. Mais arrive un autre intrus qui est E.T., qui lui est accepté pendant le temps qu'il faut pour qu'il reparte maison.
Qui reparte chez lui.
C'est-à-dire qu'il revienne en fait du Mexique et qu'il revienne rejoindre sa famille. Qu'il ne reviendra pas ou pas, c'est pas ça l'important. Et donc E.T. c'est une formidable histoire du développement de l'enfant en tant que tel, pas tellement pour devenir adulte, mais pour être en paix avec son imaginaire. Quant à son père et à cette problématique qui structure la filiation et dont il puisse se séparer. Parce que le psychique a cet avantage, c'est qu'il nous fait travailler par nos rêves et notre imaginaire un enjeu où on peut se séparer de tout ça, on peut en être guéri. Alors que le biologique qui est tellement ratatiné là, qu'on veut absolument nous faire gober, on peut pas s'en sortir avec le biologique, ça marche pas. Même s'il y en a un, ça ne peut pas, et les octets encore moins, on sera toujours pris dans l'idée d'une impossibilité de savoir d'où on vient. Et une fois que, par le psychisme, on se pose cette question d'où on vient, où on va, et que ça, j'ai intitulé mon chapitre 6 sur E.T., intelligence artificielle et rencontre du troisième type, sur justement l'enfance, où aller, d'où venir et où aller. C'est-à-dire que c'est là où le côté paumé d'un enfant, Spielberg le parle au sens où c'est une langue pour lui. Et il avait pendant 10 ans quand il lui est arrivé une bricole. C'est à 15 ans que son père est parti, mais il y a quelque chose qui a dû lui arriver avant, où il se pose la question, qui suis-je? Qui suis-je dans tout ça?
Et effectivement, vous dites bien vers d'où l'on vient, où l'on va, on entend bien la dimension plus, on va dire, spatiale, en tout cas, plus...
Du temps, temporel.
Ben, en même temps, on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'âge, que l'enfance est moins un âge qu'un lieu qu'il s'agit de reconquérir en soi. C'est-à-dire que quand E.T. dit téléphone maison, la maison, en fait, il va la rejoindre effectivement par la distance. Il va, mais il va aussi, en fait, il va retrouver ses parents qu'il a en lui. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'enfant, c'est pas retrouver quelqu'un d'autre, c'est finalement aussi se trouver soi.
Mais c'est aussi penser que son père a eu la même histoire, a eu le même genre de problème. C'est là où il y a la victoire on pourrait dire, sur la névrose. C'est qu'on met un temps fou, pour un garçon en tout cas, qu'avec son père on puisse penser que lui-même a été enfant. Et il ne faut pas que le père le dise trop vite qu'il a été enfant. Il faut qu'il le dise de temps en temps. Mais c'est certain que là, E.T. est un ancien. C'est pour ça qu'il a une gueule de fœtus. On ne sait pas très bien ce qu'il est. Beaucoup de gens le prennent pour un espèce de morceau de vie qui est arrivé là, qui n'a aucune forme et qui serait. Mais bon, Spielberg vient de le dire là. C'est la dimension du père qui est présente. Mais il faut que ce E.T. soit aussi un homme qui ait eu une histoire infantile.
Well, I think it's fine. Building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Un grand merci à vous Jean-Jacques Moscovitz d'être venu nous parler de l'enfance chez Spielberg. Donc de vous, on peut lire votre lettre d'un psychanalyste à Steven Spielberg. C'est disponible en édition numérique au papier sensible, mais on peut aussi lire de vous Rêver de réparer l'histoire, psychanalyse, cinéma politique, c'est aux éditions RS. Et aussi Le féminin interrogé entre psychanalyse et cinéma, donc aussi aux éditions RS dans la collection Le regard qui bat.
It seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Et puis, quelle meilleure manière que de finir cette émission sur l'enfance en souhaitant la bienvenue à un nouvel être dont la devinette de son prénom en 5 lettres a fait s'arracher les cheveux de l'équipe des Nouveaux Chemins depuis quelques mois. Amour, joie et belle destinée à lui et à ses parents. Et quant à nous, chers auditeurs, eh bien, nous nous retrouvons demain pour nous demander avec Steven Spielberg sa liste de Schindler, Lincoln et Minority Report si les hommes font bien l'histoire, en compagnie du professeur de philosophie Christophe Bouton, auteur notamment de Faire l'histoire de la Révolution française au printemps arabe, qui est disponible aux éditions du Cerf. Et puis quant à vous, eh bien, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.